Bonjour à chacun, chacune. Une vie intelligente, qu'est-ce que c'est? Ben, chacun un petit peu sa définition hein, d'une vie intelligente. Ou d'une vie stupide d'ailleurs. Hein. On peut faire à... Des fois c'est plus facile, on pense à plein de gens, on dit ça c'est une vie stupide. Une vie intelligente, on espère toujours que c'est la sienne. Avec sa petite philosophie à soi, ou les choix qu'on fait, les valeurs qu'on prône. Bon. Et ce chapitre 28 de Job, ben, nous donne une réponse. Il nous donne pas une réponse, il nous donne la réponse, il nous donne la réponse de Dieu à cette question. Parce que c'est bien de demander aux êtres humains, hein, c'est quoi une vie intelligente? Mais c'est mieux de la demander à son Créateur. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et finalement, donc, il vaut mieux demander à celui de qui nous sommes issus qu'est-ce que c'est qu'une vie intelligente. Alors, je vous propose de relire ce chapitre de Job 28 avec le diaporama. Et dans toute la première partie, on voit que l'être humain, il est capable de beaucoup de choses pour trouver ce qui est précieux. Il est capable de remuer ciel et terre pour des choses qui, selon lui, en valent la peine. Mais finalement, quand on met dans la balance, au milieu de ce chapitre, la sagesse et les choses précieuses. Malheureusement, souvent, nous, la balance, elle penche du mauvais côté. Parce que ce à quoi nous accordons beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, ce à quoi nous accordons beaucoup d'énergie, donc, beaucoup de temps, eh bien, quand c'est pas bien axé, selon ce que nous dit notre Créateur, nous sommes à côté de la plaque. Et on aura beau le tourner dans tous les sens, la conclusion de Dieu, c'est « ta vie est une vie stupide ». Alors ce matin, est-ce qu'on veut vivre une vie stupide? Est-ce qu'on veut vivre une journée après une journée après une journée de vie stupide? Ou est-ce qu'on veut commencer avec une journée de vie intelligente? Et puis le deuxième jour, une deuxième journée vécue intelligemment. Intelligemment selon le regard de Dieu. Alors, lisons ce chapitre de Job et voyons tous les efforts. L'homme qui est capable de prouesse. Alors, il dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Vous savez, le texte de Job est sans doute le plus vieux de la Bible. Job était contemporain, on pense, d'Abraham. C'est donc le texte le plus vieux de la Bible qui date de environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Et déjà, quand il écrit, il dit, il y a un lieu où on fait sortir l'or. Bon, j'ai vérifié, les premières mines d'argent sont attestées en moins 3000. Hein, ça date. C'est pas nouveau qu'on a découvert que dans les entrailles de la terre, on pouvait avoir des gisements et duquel on pouvait extraire un métal précieux pour en faire quelque chose. C'est pas nouveau qu'on creuse des galeries, des mines, des souterrains pour, et donc, où on fait des prouesses. Faut pas que ça s'écroule, faut pas que, hein. Pour, on se donne la peine. Pour aller chercher quelque chose qui nous semble si important. Important au point que bien des miniers y ont laissé leur vie. Bien des chercheurs d'or. Mais à leurs yeux, ça valait le risque. Alors le texte continue au verset 2 et dit « Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. » Ah, la fusion. On a vite découvert qu'on pouvait chauffer à des températures phénoménales pour faire fondre et obtenir du cuivre ici, hein, de l'airain. Il explore jusque... Alors, le verset 3, l'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Vous avez vu cette photographie, c'est une mine d'or en Afrique du Sud, la plus profonde au monde, 4 km de profondeur. On va loin pour trouver ce qui, à nos yeux, compte et précieux. Oui, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et vous voyez notre gars suspendu. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Alors suit tout un passage où on dit, ben voilà, ces endroits les plus profonds, tel animal n'y est jamais allé. Par contre, l'être humain, lui, il se distingue. Et il va chercher loin ce qui lui semble précieux. Malheureusement, dans la vie, souvent les animaux ont plus de sagesse que les êtres humains. Nous, on va chercher loin des choses qui nous semblent importantes et on passe à côté de ce qu'il est réellement. Alors, on est capable de remuer ciel et terre, on l'a dit. Et vous voyez là sur les photos, comment on peut faire tomber des montagnes, creuser des souterrains, des labyrinthes, creuser des tranchées. Tout ça pour mettre en œuvre quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et on peut faire des prouesses techniques. Alors, Job le dit. Il dit « L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. » Oh, c'est pas nouveau hein, de détourner le lit des rivières parce qu'on veut, c'est le truc d'avant, parce qu'on veut obtenir l'accès par exemple à un gisement d'or. Vous avez vu la petite photo où c'est marqué Rosia Montana sur le côté gauche. C'est un village de Roumanie qui a fait l'objet de grands débats écologiques. Ça vient de s'arrêter en janvier 2016. Parce qu'il y avait un gisement d'or et qu'une société voulait obtenir les droits pour exploiter. Mais alors il fallait détruire 4 montagnes, il fallait raser 750 habitations, faire un immense lac où, de décantation où il y aurait 12 000 tonnes de cyanure par an. Il fallait donc détourner le lit d'une rivière. Et ce n'était pas les seuls désagréments écologiques qu'il y avait à l'exploitation, à la surexploitation de ce gisement d'or. Bon, finalement, ça ne se fait pas. Janvier 2016... ça a été interdit, voilà. Mais vous voyez comment l'homme est capable de prouesses. Et quand on fait ses prouesses et quand on y arrive, alors là c'est dans ce domaine. Mais ça peut être dans d'autres domaines. On a l'impression d'être quelqu'un d'intelligent parce qu'on a réussi à détourner le lit d'une rivière, on a réussi à remuer ciel et terre pour construire, bâtir. On se dit là, c'est... j'ai pas perdu mon temps. Voilà une vie intelligente où j'ai trouvé de l'or, où j'ai trouvé des pierres précieuses, où j'ai atteint tel but. Ça peut être dans d'autres domaines où on fait des efforts pour monter quelque chose, pour faire quelque chose, pour entreprendre. Mais toute cette inventivité, toute cette intelligence, est-ce que c'est là la vraie intelligence? Est-ce que c'est là la vraie sagesse? Et ça nous pose une question ce matin. C'est quoi une vie intelligente? C'est quoi une vie vécue intelligemment? Oui, on a été créé à l'image de Dieu, et parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes capables de tas de choses. Et c'est merveilleux parce que Dieu nous a donné un cerveau, il nous a donné des mains. Et on peut avancer et faire des choses extraordinaires. Alors que les animaux, dans 10 000 ans, ils auront toujours les mêmes procédures telles que Dieu les a créées. Nous, c'est pas pareil. Mais ça, c'est pas la vraie intelligence, c'est la vraie sagesse. C'est juste constater qu'on est créé à l'image de Dieu, avec un cerveau pour s'en servir, avec des mains pour œuvrer. Mais la vraie sagesse, la vraie intelligence, une vie intelligente, est-ce qu'on sait comment la mener? Est-ce qu'on est bien sûr de mener une telle vie? Alors, il y a des choses qui sont précieuses pour nous. Là, dans ce texte, ce qui est précieux, ce sont les divers cristaux. On voit toutes ces belles pierres, et à travers ces belles pierres, etc., on voit d'ailleurs la gloire de Dieu. On se dit, c'est quand même incroyable que dans les entrailles de la terre, il y ait des si belles choses. Même dans les entrailles de la terre. Il y en a des très belles dessus. Mais même dans les entrailles de la terre, les richesses sont encore en réserve. N'est-ce pas? Formidable. Alors nous, on se croit très intelligent parce qu'on a réussi à aller les chercher. Mais c'est pas nous qui les avons créés. Nous, on se croit très intelligent de toutes nos prouesses. Mais nous n'avons pas fabriqué notre propre cerveau et nous ignorons absolument comment faire. Alors qu'est-ce qui est vraiment précieux ? La diapositive suivante pose cette question. Et c'est ce verset au verset 15 à propos de la sagesse. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Corail et cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Alors ce schéma illustre bien quel est le sens de nos priorités dans notre vie. C'est quoi une vie intelligente? Une vie intelligente, c'est une vie qui recherche ce qui est précieux. Ça nous demande donc, ça nous interroge, qu'est-ce qui est vraiment précieux pour toi? À quoi tu vas consacrer ta principale énergie? À quoi tu vas donner une priorité, une place privilégiée? Alors, qu'est-ce qui est précieux pour nous? Et là, nous avons en balance deux choses. L'or qui représente tout ce qui peut être précieux pour nous, mais ça peut être la musique, ça peut être les voyages, ça peut être une carrière, ça peut être des tas de choses qui sont vraiment précieuses pour nous et desquelles on va donner une priorité. des tas de choses. Est-ce là une vraie vie intelligente? La réponse, c'est pas nous qui pouvons la donner, il n'y a que Dieu qui peut définir ce qu'est une vie intelligente. Parce que le problème, c'est que nous, on a un orgueil démesuré. On est capable d'inventivité, de prouesse, de remuer ciel et terre, et on finit par se croire des grands caïdes, des grands boss, des surhommes, qui vivons une vie intelligemment. Et pourtant, nous ne sommes rien face à Dieu. La diapositive suivante nous le dit. Regardez ces versets de Job. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Le verset 23 répond, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il régla le poids du vent, qu'il fixa la mesure des eaux, qu'il donna des lois à la pluie, qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se croit très fort parce qu'on est capable d'extraire de l'or, mais on ne l'a pas fabriqué. Dieu lui a donné les lois naturelles. Et ce texte de Job, qui est vieux de 2000 ans, en cite déjà quelques-unes. C'est incroyable qu'il y a 2000 ans, on puisse parler du poids du vent. Parce que le vent a un poids. 1,2 kg pour 1 mètre cube. 1 000 litres d'air. Pression atmosphérique. Et il a réglé le poids du vent. Et la chose, c'est qu'il suffit de changer le poids du vent pour que notre physionomie, nos poumons, pour que les arbres, les plantes, etc. soient complètement déréglés. La pression atmosphérique est extrêmement importante. D'ailleurs, cette formule est bien complexe. C'est elle qui permet de calculer le poids du vent. Dieu l'a réglé. Il a donné des lois à la pluie. Oh, dans toutes les écoles primaires, on apprend le cycle de l'eau, les lois de la pluie. C'est pas parce qu'on chante qu'il pleut, même quand on chante faux. C'est pas parce qu'on fait la danse de la pluie non plus. Après, on a compris le cycle de l'eau, mais nous, pour l'instant, on est incapable de faire pleuvoir là où on veut, quand on veut et dans les mesures où on veut. Hein. Sinon, on n'aurait pas d'inondation. Ça nous arrive, les inondations. Même aujourd'hui, oui ou non? Parce qu'on ne maîtrise rien. Par contre, lui, Dieu, a donné des lois à la pluie que simplement nous apprenons à observer, à comprendre. Avec cette évaporation de l'eau de la mer sous l'action du soleil, les nuages qui partent, et puis la condensation dans les montagnes, hop, ça rencontre des masses d'air plus froid, ça se condense, ça retombe, et puis les ruisseaux, et puis ça revient, et puis c'est un cycle. Je l'ai mal expliqué, mais c'est à peu près ça. Vous avez le schéma. Et que dire des éclairs? Dieu a inventé l'électricité avant nous, non? Hein, on pense aux expériences de Benjamin Franklin qui voulait à tout prix démontrer que les éclairs étaient de nature électrique, ce qui n'était pas une évidence du tout. Vous prenez une décharge, je vous garantis que c'est plus qu'une ligne à haute tension. Hein. Oui, Dieu a mis en place des choses extrêmement complexes que tranquillement, doucement, nous apprenons à comprendre. Moi, par exemple, une chose qui me fait rigoler et qui me rappelle ma petitesse face à Dieu, ce sont les piscines. Ça me gonfle. Oh là là, l'entretien qu'il faut, la pompe, les produits qu'on met, alors que depuis des milliers d'années, Dieu, lui, il a mis en place des systèmes dans la mer, dans les rivières, dans les lacs, où l'eau, de manière naturelle, se ressource, se renouvelle, se réoxygène, etc., etc. Alors aujourd'hui, on fait un peu des piscines écologiques, hein, on met des bassins, des plantes qui... Bon, ça existe. En fait, on revient juste à ce que Dieu a mis en place. Et nous, on est là avec nos produits et tout, hein. Pour 36 mètres cubes d'eau, alors qu'il y a des millions et des millions et des millions de litres d'eau qui, depuis des milliers d'années, n'ont pas besoin d'une seule pompe électrique. C'est formidable. Je regardais une petite vidéo hier sur le fait de détourner le cours d'une rivière. Ça nous paraît simple, oui, si on ne respecte pas l'écologie, mais aujourd'hui on la respecte. Quand on détourne le cours d'eau d'une rivière pour que tous les organismes puissent continuer, oxygéner l'eau, etc., c'est extrêmement complexe, hein. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens bien calés. Parce qu'il y a tout un écosystème à recréer. Oui, on est petit. Et pourtant, Dieu nous a donné un rôle, une mission. C'est de lui ressembler. C'est d'être en projet. C'est d'inventer. C'est de fabriquer. Et toutes ces choses-là sont bonnes. Ne venez pas me dire qu'à la fin, je vous ai dit qu'une vie intelligente, c'était pas de travailler. Attention, hein. Non, être en projet, créer, inventer, mais c'est formidable. Mais, c'est formidable, mais ce n'est pas le principal. Il y a une chose qui, dans la balance, dans notre vie, devrait peser bien plus lourd. C'est la sagesse. C'est de nous dire, ok, tout ça, c'est très bien. Dieu nous a créés pour vivre en société, avoir des relations, œuvrer, construire, inventer. Ouais. Mais il y a quoi qui détruit tout ça? La stupidité. Oh là là. Est-ce que l'homme, des milliers d'années après Job, on est quand même 4000 ans après lui, est-ce que l'homme est devenu plus intelligent, plus sage? Est-ce qu'il a évolué? Je ne suis pas bien sûr. Hein. On regarde les cartes du monde avec toutes les guerres. On prend les statistiques des viols dans le monde. À peu près une femme sur deux. C'est peu, hein? On prend simplement la vie du quotidien. Les couples qui se déchirent, qui se divorcent. On prend les querelles de voisinage, les truanderies professionnelles, et puis on peut continuer. Nos mauvaises réactions. Même dans sa maîtrise technique, l'homme est souvent stupide. Actuellement, on est en train de faire quoi? De polluer. Ah oui, on a une maîtrise technique, mais on pollue. On crée même des maladies qui n'existeraient pas sans nos prouesses techniques. On provoque des maladies. On ne maîtrise pas tout ça. Et on manque de sagesse. Et que dire de notre génération? Cette nouvelle génération si intelligente qu'elle pense qu'elle n'a plus besoin de s'instruire et qu'elle passe son temps devant des émissions de télé stupides, devant des jeux vidéo pas très constructifs, à regarder des heures, des photos, des machins, des trucs. On est une génération où on s'instruit le moins. Non, ça dit. L'homme est très intelligent. Mais qu'importe. L'essentiel de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est de trouver la vraie intelligence et la vraie sagesse. Et la réponse qui était initié au verset 23, c'est Dieu qui en sait le chemin. Alors Dieu nous montre qu'il est la source de la sagesse. Nous, on se croit grand et fort parce qu'on commence à jouer les apprentis sorciers avec la nature, avec la médecine, avec tout ça, et qu'on n'y arrive pas trop mal grâce à l'intelligence que Dieu nous donne, le cerveau, mais on est juste en train de trafiquer ce que lui a mis en place. On ne crée rien. Il est la vraie source de la vraie sagesse, de la vraie science, de la vraie nature. Et donc, parce qu'il est la source de tout ça, nous avons bien lieu de croire que pour la sagesse du cœur, pour l'intelligence des relations, il est aussi la source. Et après avoir montré que c'est lui qui est la source de la vraie sagesse dans le monde, dans la création du monde, dans les lois qu'il a données à la pluie, dans la route qu'il trace à l'éclair, dans le poids qu'il a donné au vent, et tant d'autres exemples, il s'adresse à nous. Il se tourne vers nous en disant, écoute, voilà, tout ça, c'est moi qui l'ai fabriqué, bon, voilà, toi, tu trafiques un peu, mais ici, l'architecte, c'est moi. Et l'architecte du cœur aussi. Alors il se tourne vers l'homme, et c'est le dernier verset du chapitre. Puis il dit à l'homme, tu peux passer. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors, c'est cette dernière partie qui, pour nous, est fondamentale ce matin. On a commencé en disant, c'est quoi une vie intelligente? Et est-ce que je vis une vie intelligente? Est-ce que je vis une vie intelligente? On a dit, on a tous nos réponses à nous. Ben, on va se tourner vers celui qui a tout créé, tout réglé, tout pesé. Et lui demander, au fait, c'est quoi une vie intelligente? Il dit, une vie intelligente, c'est la crainte du Seigneur. Et c'est s'éloigner du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la crainte du Seigneur? La crainte du Seigneur, c'est la sagesse, dit-il. Est-ce que c'est avoir peur? Peut-être. Peur de Dieu? Alors, certainement pas, comme nous, on a peur de quelque chose qui nous serait néfaste. Nous, on a peur de situations, on a peur de personnes qui seraient nocives pour nous. Ça, on en a peur, on craint ce qui va nous abîmer, ce qui est nocif. Dieu n'est pas nocif. Alors il ne s'agit pas d'avoir une crainte de Dieu comme on a une crainte de quelqu'un qui serait nocif. Parce que Dieu est amour et bienveillant. Au contraire, il veut nous sauver, il veut nous reconstruire. Alors, quelle est cette crainte? Ah, c'est peut-être la crainte qu'on a lorsqu'on a fait des bêtises. C'est la crainte des parents quand on a piqué dans le panier de bonbons et qu'on va se faire choper. Moi, c'était le chocolat quand j'étais petit. Oh là, j'avais pas remarqué que ma mère comptait les carreaux. Je pensais que ça passerait inaperçu, elle avait compté. Ah. Et oui. Mais doit-on avoir peur de Dieu, même si on est coupable, en se disant, ouf, il va être juste, hein, mais il va être impitoyable? Non. Parce que Dieu est un Dieu qui veut pardonner. Il est prêt à pardonner. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? D'abord, la crainte de Dieu, c'est la conscience de Dieu. Prendre conscience de Dieu. Et en prenant conscience de Dieu, prendre Dieu en compte. Si je prends conscience de Dieu, il va falloir que je prenne Dieu en compte. Le problème, c'est que l'absence de crainte de Dieu, c'est d'abord l'absence de conscience de Dieu. Dieu n'existe pas. Enfin, j'en sais rien. Il existe peut-être, oui, non. Enfin, qu'importe, qu'importe. Non, non. Il dit la sagesse. Ça va commencer par la conscience de Dieu. Et quand tu as conscience de Dieu, tu te dis, ben, il va falloir, si j'ai conscience de Dieu, il va falloir que j'en tienne compte. Que je le prenne en compte. Et Dieu nous dit, ouais, ouais, tiens, ça serait une bonne idée que tu me prennes en compte. Et là, on se dit, ah ouais, mais pour prendre Dieu en compte, c'est que j'ai un problème. C'est que Dieu est saint. Et c'est que moi, je suis pécheur, que je suis coupable. Parce que lui, Dieu n'est pas nocif, mais moi, je le suis. Je suis nocif pour moi-même et je suis nocif pour les autres. Plus souvent qu'à mon tour. Ça s'appelle le péché. Alors on peut discuter ce qu'on veut, hein. C'est Dieu qui nous le dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit aussi, car il n'y en a pas un seul qui est bon. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous sont pervertis. Alors oui, quand je prends Dieu en compte, conscience de Dieu, prise en compte de Dieu, il me dit, mais le problème c'est que tu es nocif là. Et tu es coupable. Et tu es responsable. Et je suis prêt à te pardonner. Et Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Alors oui, la sagesse d'une vie, c'est de vivre en toute conscience de Dieu, pour prendre Dieu en compte. Et pour régler ce problème de ce qui fait barrière, obstacle entre Dieu et moi, entre ce que je suis, ce qu'il est, et c'est le péché. C'est venir à Dieu dans la repentance, en demandant pardon, pour faire un demi-tour de cœur. C'est s'éloigner du mal. Et venir à Dieu en disant, écoute, c'est vrai, ici, s'il y en a un des deux qui est grand, c'est pas moi. Malgré mes prouesses, malgré mon grand savoir, malgré ce que j'ai réussi dans la vie, qui est très bien, c'est pas moi qui suis grand, c'est toi. Et c'est pas toi qui es nocif, c'est moi. Alors je viens à toi, Seigneur, je te demande pardon pour cela, et je veux faire route avec toi. Et la crainte de Dieu aboutit à la relation avec Dieu. Une relation proche, une relation intime. Craindre Dieu, ça part donc de cette conscience de Dieu, de cette prise en compte de Dieu, de ce rapprochement de Dieu et de cette relation avec Dieu. Une relation trouvée, une relation retrouvée. Une relation qui va avoir ce respect. La crainte de Dieu, c'est aussi ce respect de ce qu'il est. Ce souci, ce soin d'être dans la même ligne que Dieu est. Et sa ligne à lui, c'est quoi? C'est la sainteté. Il dit, écoute, maintenant aligne-toi. Mets-toi en harmonie avec moi. Ce n'est pas une question de s'aligner juste pour s'aligner. C'est une question de se mettre en harmonie avec lui. Parce que le mal est mal et qu'il n'y a pas à chipoter là-dessus. Nous, nous sommes forts pour tourner le mal en bien, l'amoindrir, l'adoucir, le câliner, le caresser. Et puis finalement, il n'est pas si... Enfin, c'est pas si mal. Enfin, vous voyez, Dieu dit, écoute, le mal, c'est mal. Pour de vrai. C'est nocif. Aligne-toi avec moi. Mets ta vie en harmonie avec la mienne. Alors, cette écoute de Dieu, cette obéissance nous met en mouvement pour nous éloigner du mal. Du mal sous toutes ses formes. Toute forme de mal. Même les plus anodines, hein, les formes les plus anodines, qui ne sont anodines qu'à nos yeux aveuglés. Alors, c'est quoi une vie réussie? Une vie réussie, dans ce chapitre, ce n'est pas l'exploit d'avoir creusé un puits de 4000 mètres de profondeur pour aller chercher de l'or en Afrique du Sud. C'est pas mal, hein, c'est chouette. Mais ça ne définit pas une vie réussie. Ça ne définit pas une vie intelligente. Et tout ce qu'on peut réaliser, ce qu'on fait, ne définit pas une vie intelligente. C'est ce qu'on est. Une vie intelligente, c'est ce qu'on est, pas ce qu'on fait. Et ce n'est pas ce qu'on est aux yeux des autres, de mes semblables, c'est ce qu'on est aux yeux de Dieu, sous les lunettes de Dieu. Est-ce que je suis une âme en relation avec son Créateur ? La crainte de Dieu, conscience de Dieu, prise en compte de Dieu, rapprochement de Dieu, relation avec Dieu. Est-ce que je suis une âme en relation avec son Créateur ? Et est-ce que je suis une âme dont la sagesse de vie consiste à s'éloigner du mal ? Alors disons-le très clairement, si ma vie c'est pas ça, ma vie est une stupidité. C'est dur de l'entendre. Mais quand, si je ne suis pas en relation avec mon Créateur et que ma philosophie prioritaire de chaque journée c'est de m'éloigner du mal, ma vie est une stupidité et de surcroît bêtement orgueilleuse parce qu'elle se pense intelligente. Vous savez, il n'y a pas à transiger. Dieu nous donne une définition et il nous dit, le verset 28 est solennel, il dit en parlant de Dieu, puis il dit à l'homme, il se tourne vers l'être humain et dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dieu est en train de nous donner sa définition, la définition d'une vraie vie intelligente. Si ce n'est pas notre définition, notre vie est stupide. Ma vie, ça serait dommage qu'elle soit une stupidité aux yeux de Dieu. Alors, ce matin, cela nous rappelle que nous pouvons enchaîner une journée stupide après l'autre. Lorsque je ne suis pas en relation avec mon Créateur, lorsque je ne le connais pas, lorsque je ne lui parle pas, lorsque je ne m'adresse pas à lui, lorsque je ne cherche pas sa présence, lorsque je ne suis pas à son écoute. Et même si nous sommes des chrétiens qui avons accepté Jésus, tout ça, là, chaque journée que je vis où je ne suis pas ou en relation avec mon Créateur, je ne suis pas dans la crainte du Seigneur, puisque je ne suis pas en train de le prendre en compte, c'est une journée stupide. Alors est-ce que je vais enchaîner journée stupide après l'autre ? Ou est-ce que je vais décider de vivre une journée sage et intelligente ? Déjà celle-là ! En étant ce jour-là une âme en conscience de son Créateur, donc en relation avec lui. Une âme dont la sagesse du jour, hein, un jour après l'autre, mais une âme dont la sagesse du jour, ça consistera à s'éloigner de toute forme de mal. Cette journée-là, ce sera une journée intelligente. Et demain, je pourrai la réitérer. Être en conscience de mon Créateur, en relation avec lui. Et à nouveau, prioritairement, veiller à m'éloigner de toute forme de mal. Ce qui n'empêche pas toutes sortes de réalisations. Dieu nous a donné des mains, un cerveau, c'est pour les utiliser. Ça ne nous empêche pas de vivre, de nous éloigner du mal, n'est-ce pas ? Mais cela doit primer. Alors, qu'est-ce qu'on veut décider comme journée ? Qu'est-ce qu'on veut décider comme vie ? Une vie stupide ? Selon la définition de Dieu ? Ou une vie vraiment intelligente ? Prions. Seigneur, tu nous mets un coup de pied au derrière ce matin avec ce texte. Parce que je dois bien le reconnaître pour moi-même, il y a bien de mes journées de la semaine qui sont des journées stupides. Parce que je cours à droite, j'œuvre à gauche. Je creuse pas des tunnels, mais bien d'autres activités. Et il est des journées, Seigneur, où je ne suis pas une âme en vraie relation avec toi, en vraie crainte de toi, en conscience de toi. Et je ne veille pas forcément toujours à m'éloigner du mal, en priorité. Prioritairement à tous mes autres projets, à ce qui est en jeu, à ce qui me gêne, à ce que je ne réussis pas. Ce matin, Seigneur, tu nous invites à prendre une décision. À prendre cette décision jour après jour, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. De vivre une journée intelligente sous ton regard. Alors aide-nous à peser nos cœurs, à être réaliste aussi, à entendre ta voix qui ne nous plaît pas toujours, mais qui est bénéfique. Parce que tu veux notre bien. Tu veux nous protéger, Seigneur, d'une vie perdue, une vie inutile, une vie où on est passé à côté de l'essentiel. Aide-nous, Seigneur, à le vivre chaque jour, au nom de Jésus. Amen.